Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Bonsoir Thomas et salut à vous les curieux.
Au programme ce soir, donc, saviez-vous que l'Afrique connaît une révolution mobile? Le téléphone portable a changé l'économie du continent. On va vous raconter comment et puis que diriez-vous donc d'une balade insolite au Louvre. On va vous révéler les secrets bien cachés, très bien cachés des tableaux les plus mythiques.
Cette archive sonore, c'est l'une des pépites que collectionne notre invité. C'est une chanson sur l'aviation. Nous sommes en 1909 et l'aviateur Louis Blériot vient de traverser la Manche. C'est mythique, c'est unique. Bonsoir Franklin Picard.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes le plus grand collectionneur de sons au monde, plus de 200 000 enregistrements. Quand est-ce qu'elle a commencé votre collectionnite?
Il y a très longtemps, par le théâtre. Au départ, ma passion, c'était le théâtre et essentiellement tous ces disques 78 tours qu'on trouvait en furetant un peu. Donc c'est là que j'ai trouvé en particulier les premiers enregistrements de Sarah Bernhardt et des grandes voix du début du siècle. Mais ça, c'est une partie de la collection. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle la collection « J'achète ». Et il y en a une autre que j'essaie de créer, c'est-à-dire j'aime beaucoup, un peu comme vous le faites ici, aller voir des personnes et faire avec eux des récits de vie.
Avant que ces personnes disparaissent, par
Avant
exemple.
Avant que ces personnes disparaissent.
Mmh. Quels sons vous cherchez? Est-ce qu'il y a une caractéristique de son qui fait que vous dites « celui-là, il me le faut » ?
Pas vraiment.
La rareté ?
La rareté, oui, mais c'est très relatif. En fait, je dirais que je suis très sensible au ton de la voix. Pour moi, la voix, en fait, c'est ce qui reste des hommes, beaucoup plus que l'écriture ou les photos. Et c'est toujours un grand moment de retrouver les gens, par exemple, qu'on a aimés, que ce soit des personnes de votre propre famille ou tout simplement des gens qu'on a pu admirer sur scène ou ailleurs, de réécouter leur voix, ça les rend très vivants.
Quelle est votre dernière acquisition, Franklin Picard?
Ma dernière acquisition, la plus importante, je pense que c'est un discours de M. Paysan qui a, à l'époque, décidé que le soldat inconnu se trouvait sur l'Arc de Triomphe. Ça, c'est évidemment un objet unique, un disque Gaumont, mm-hmm. Et c'est très rare.
Et ça rejoint un thème de l'émission qu'on abordait hier. Ça coûte cher, un son?
Écoutez, c'est toujours trop cher. Mais en réalité, par chance, le marché étant petit, faible, il y a peu de collectionneurs de voix historiques, car je crois qu'il faut bien préciser que dans ma collection, il n'y a que des gens qui parlent. Ça, c'est la première chose. De début d'enregistrement, dont on parlera sûrement tout à l'heure, jusqu'à nos jours, et surtout dans toutes les langues. Donc, les prix, bon, ça va de quelques euros pour les choses. Mais comme actuellement, il y a de plus en plus d'intérêt pour l'histoire, entre autres grâce à vous et à toutes les radios qui s'y intéressent, des enregistrements comme celui dont je viens vous parler et d'autres, oui, ça peut monter, mais jamais, par exemple, à des prix comme ceux qu'attiennent des disques rares d'opéra, par exemple.
Et ça veut dire quoi, pardon? C'est quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros pour les pièces les plus rares?
Centaines d'euros, non, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros.
D'accord.
Allez, on pousse la porte de votre bibliothèque sonore, si vous le voulez bien, Franklin Picard. On va écouter le premier son, c'est le plus vieil enregistrement sonore au monde. Alors, ce n'est pas une erreur, hein. On n'a pas appelé quelqu'un, on est tombé sur rien. Décryptez-nous ce son, Franklin Picard, c'est quoi?
Ben écoutez, je ne voudrais pas pousser un cocorico, mais je crois qu'il est important que les Français qui écoutent cette belle émission sachent que Édouard Léon Scott de Martinville, en 1859, c'est-à-dire exactement 20 ans avant Edison, a inventé un appareil qu'il appelait le phonotographe, grâce auquel le son a pu être enregistré.
Ça s'appelle comment, le phonotographe?
C'est ça. Et alors,
c'est l'ancêtre du phonographe.
C'est l'ancêtre du phonographe. Seulement, la difficulté, c'est que pendant plus de 150 ans, ces enregistrements qui avaient été déposés à l'Institut de France n'ont jamais pu être écoutés. Et il a fallu qu'il y a quelques années, une université américaine demande la permission de les prendre, et ils ont réussi, un peu un miracle de l'enregistrement, à sortir le son, si j'ose dire, de sa coquille, et lui permettre ainsi d'écouter les premiers sons.
Mais on entend quoi ? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là ?
C'est un diapason.
Qu'est-ce que c'est, un diapason ?
Un diapason, vous savez, c'est l'appareil qui permet, en musique...
De régler les instruments ?
Les instruments.
Bon, il fallait le reconnaître, quand même. Mais on comprend, c'est un son, vous vous rendez compte, de 1859, là, qui nous vient depuis aussi loin. Allez, autre trésor de votre collection, écoutez bien, c'est la sirène du Titanic. C'est parti, on écoute. Ça aussi, c'est assez magique d'écouter ce son. Est-ce que les naufragés du Titanic l'ont entendu au moment du naufrage ? Est-ce que c'est un son qui a été actionné par le commandant de bord ?
Oui, c'est ça qui me bouleverse. En fait, je pense même que je l'appelle la voix du Titanic. C'est sans aucun doute le dernier son qu'ils aient entendu avant de quitter Cherbourg. Et ce son qui n'a été entendu qu'une fois, à Saint-Louis, aux États-Unis, devant 150 000 personnes, ce son a été donné par M. Narjollet, qui a fait les fouilles, vous savez, et grâce auxquelles ont pu être retrouvés notamment les sifflets du Titanic et aussi, bien entendu, beaucoup d'autres objets.
Mais ça veut dire qu'on a retrouvé les sifflets, du bateau, on les a retrouvés...
Ils ont été retrouvés sous l'eau, bien sûr.
C'est un son qui date de quelle époque, ce son de cette sirène du Titanic, Franklin Picard ?
En fait, ces sons sont ceux de 1912, parce que c'est les sifflets originaux qui n'ont été joués qu'une seule fois, parce que c'est trop fragile. Mais l'enregistrement date de 1998, je pense.
D'accord. Et à propos du Titanic, dans vos archives sonores, il y a un témoignage absolument bouleversant. Un rescapé du Titanic, on va en parler dans un instant sur RTL avec vous, le plus grand collectionneur de sons au monde.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors que certains collectionnent des timbres ou des porte-clés, lui collectionne des moments de vie, des voix disparues, des sons disparus ou encore des témoignages. Nous sommes avec Franklin Picard, vous êtes le directeur de l'Institut des Archives Sonores à Paris. Vous nous avez fait écouter la sirène du Titanic, mais vous avez aussi dans votre malle au trésor sonore le son, l'interview du dernier rescapé du Titanic, c'est Michel Navratil. On va l'écouter tout de suite et puis on raconte son histoire dans quelques instants.
Au milieu de la nuit du naufrage, dans la cabine où mon frère et moi dormions sur des couchettes, mon père nous réveilla tous deux. Je le vois encore, debout près de notre couchette, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, sans doute un passager dont il avait demandé l'aide. Mon père m'emmena dans ses bras. Son compagnon prit de la même façon mon frère avec lui. Ils nous placèrent, mon frère et moi, dans une chaloupe suspendue au bord du pont du navire. Plusieurs femmes s'y trouvaient déjà assises. À ce moment, mon père me chargea de transmettre à ma mère quelques mots affectueux et il me dit adieu. J'entends encore le bruit que fit le canot au moment où, ayant été descendu du navire, il atteignit la mer.
Michel Navratil, c'est le dernier rescapé
français du Titanic.
Et il a quel âge quand son père le dépose dans cette chaloupe et le sauve, parce que son père va, lui, rester dans le Titanic et couler ?
Il a 3 ans. Je dois vous avouer que chaque fois que je réécoute cet enregistrement que j'ai fait il y a maintenant une trentaine d'années, je suis...
Ah, c'est vous qui l'avez rencontré ?
Oui, c'est moi qui j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à sa fille, Elisabeth Navratil. Et c'est vrai que rencontrer un survivant du Titanic, très rapidement, je dirais que ce qui est important dans son témoignage, c'est qu'il avait un souci, mais alors énorme, de la justesse de sa mémoire. Il me dit, mon témoignage sera court, mais je ne veux absolument, parce que vous savez, on a inventé beaucoup de choses autour du Titanic. Lui, tout ce qu'il dit, c'est absolument, absolument sûr. Et donc, en gros, son histoire, vous l'avez compris, en fait, son père l'avait quasiment enlevé sous le nom, il s'appelait, son surnom était Lolo, et son nom de famille était Hoffman, avec son petit frère, 2 ans. parce qu'il y avait un problème familial, disons. Et
oui, il est en instance de divorce avec sa femme.
En instance de divorce. Et évidemment, pour lui, ça a été une
en fait, le papa l'enlève.
L'enlève sous un faux nom.
Sous un faux nom, et l'emmène faire cette grande traversée sur le Titanic.
Il entend à Cherbourg le fameux sifflet, et puis il se retrouve à New York. Après avoir été sauvé par le Carpathia.
D'accord. Alors, autre pépite, parce qu'il y en a beaucoup, il faut qu'on avance. Autre pépite, on connaît son nom, mais pas forcément sa voix. C'est le psychanalyste Sigmund Freud.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic
patients. De quand date ce son?
Il a enregistré ça lors d'un voyage en Angleterre dans les années 30-35.
Qu'est-ce qu'il raconte, cet enregistrement?
Oui, et dans quelles conditions ça a été fait?
Écoutez, moi, comme je ne suis pas assis sur un canapé, je ne peux pas vous répondre.
D'accord. Bam.
Très bien.
On a un autre son.
Que des stars, hein, des personnages historiques, mais
pas,
mais pas des petits personnages historiques.
Voilà, hein. c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Essayez de deviner chez vous.
We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.
Comment ça, vous n'avez pas trouvé? Mais nous, on a tous trouvé la rédaction d'RTL, mais bien sûr que non, on n'a pas trouvé. C'est Einstein.
Oui, ça c'est un, si je l'ai dit souvent, c'est un grand bavard. On a la chance d'avoir beaucoup d'enregistrements d'Einstein.
Il s'enregistrait tout seul ou il faisait quoi, des interviews?
Pas du tout, mais il était suffisamment célèbre pour que là on ait pris conscience de l'importance de garder sa voix. Je dirais simplement, parce que je trouve ça tout à fait typique de l'humour d'Einstein. Évidemment, quand on parle de E égale MC carré, ça tout le monde le sait, mais personne n'y comprend rien.
Ça,
et alors,
sûr.
Einstein s'est dit, moi, il faut que tout le monde puisse comprendre. Et je pense que les auditeurs de l'émission vont beaucoup mieux comprendre. Il disait, placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure. Et ça vous semble durer une minute. C'est ça, la relativité.
Effectivement, d'un seul coup, c'est beaucoup plus clair.
Vous l'avez fait tous les soirs, Thomas?
Oui,
à côté de moi.
Jusque-là, j'avais absolument rien compris. D'un seul coup, ça devient limpide. Je deviens scientifique. Allez, on continue. Autre grande personnalité. Peut-être Léon Tolstoï, si c'est possible, André Facetta. Léon Tolstoï, écoutez.
La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu.
Léon Tolstoï qui parle de la religion, de Dieu, en français. Franklin Picard, vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, vous savez, les Russes ont toujours été très très doués pour les langues étrangères déjà, et Tolstoï au moins autant que les autres. C'est un enregistrement de 1904 qui existe, chose curieuse, en quatre versions, en français, en anglais, en allemand et en russe. Alors comme j'ai voulu être gentil, j'ai apporté la version française.
Merci.
ce qui fait que Tolstoï l'a enregistré, c'est qu'Edison, lors de son premier tour de propagande pour faire connaître son invention, enfin ce qu'il croyait de son invention, en a donné un à Eiffel, on en parlera tout à l'heure, et aussi un à Tolstoï. Et grâce à ça, Tolstoï, c'est très curieux, a enregistré pratiquement sur cet appareil tout ce qui arrivait tous les jours dans un autre enregistrement.
Donc avec un des premiers phonographes d'Edison, c'est ça
d'Edison,
d'accord.
C'est
ça.
Alors parmi votre collection absolument incroyable d'archives sonores, Franklin, j'allais dire Franklin Roosevelt, mais ça vient de là, votre prénom, Franklin.
Oui, j'avoue.
C'est un hommage à vos parents, vous voyez. Franklin Picard. On a un témoignage bouleversant, celui d'Alfred Dreyfus.
Le 20 juillet 1906, belle journée de réparation pour la France et la République. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade. Comme compensation des persécutions qu'il avait subies, pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence, qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale.
Recontextualisez-nous ce discours. Il parle d'une belle journée de réparation. Nous sommes en quelle année ?
1894. Parce que, en 1894, l'affaire Dreyfus commence. Et
il est accusé d'avoir livré des documents
secrets
aux Allemands.
Aux Allemands, exactement.
Et condamné pour ça, évidemment.
Et condamné. Il a même été, comme vous le savez, au bagne lors du second jugement. Mmh. Et puis il a fini par être acquitté, entre autres, grâce au lieutenant-colonel Picard, mais ça ne s'écrit pas de la même façon, et aussi, bien sûr à Zola et à Clémenceau.
Et c'est ce dont il parle dans cet enregistrement.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, il lui rend hommage parce que c'est vrai qu'il a joué un rôle important.
Et cette archive, vous l'avez obtenue comment ?
Alors, non, cette archive est une archive qui a été faite à la Phonothèque nationale, qui est maintenant la Bibliothèque nationale. Mais à l'époque, on enregistrait les voix célèbres au tout début du siècle.
D'autres voix célèbres, d'autres voix françaises comme ça qui surgissent de l'histoire, on vous les offre ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec un invité exceptionnel, Franklin Picard, directeur de l'Institut des archives sonores à Paris. Plus de 200 000 voix et sons d'archives comme ça qui, comme je le disais tout à l'heure, surgissent de l'histoire. Vous nous avez apporté un magnifique enregistrement de Clémenceau. On l'écoute.
Je viens vous demander ce que vous voulez faire pour aider la France, pour protéger la démocratie. À deux reprises différentes sur ce sol de l'Amérique, nous avons livré ensemble de magnifiques batailles qui ont abouti au plus brillant succès. Notre urgent besoin était d'avoir l'Amérique à nos côtés pour la bataille. Nous avons attendu longtemps pour être venus.
Ah, il vous plaît, ce son, Franklin Picard.
Il y a toute l'emphase. Mais oui, tous. Il y a l'emphase. Ouais. Il y a l'emphase des hommes politiques et des chefs d'État de l'époque. Alors, on est quand ? Juste après la Première Guerre mondiale, c'est ça ?
Oui, on est juste après la Première Guerre mondiale. Et en fait, Clémenceau, qui a quand même une figure majeure de la Troisième République, dont la carrière est faite de grands moments et de moments, disons, plus difficiles. Mm-hmm. Là, ce qui m'a intéressé, pour tout vous dire, c'est le silence entre « nous avons attendu longtemps » et « vous êtes venus ».
Il parle aux Américains.
Parce que s'adressant aux Américains, il fallait quand même s'appeler Clémenceau pour oser une chose comme ça.
Ce qu'il leur reproche, en fait, d'avoir mis un peu de temps à arriver.
D'avoir attendu 1917, c'est ça ?
D'avoir attendu 1917 pour se décider.
Comment vous dénichez un son comme celui-là, tiens, par exemple ?
Vous savez, il y a plusieurs méthodes. Au départ, c'était tout simplement en allant au marché aux puces, dans les quelques magasins qui se trouvaient en France. Mais ça va peut-être vous paraître curieux, mais je crois que les plus rares de tous mes documents, je les ai trouvés aux États-Unis, et notamment à Los Angeles, dans tous les magasins qui sont, eux, spécialisés dans les...
Ils sont à la pointe, les Américains ?
Ils sont très à la pointe, parce que chaque université américaine a un oral history department, un département d'histoire orale. Et donc, tous les étudiants se doivent d'avoir des documents, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins.
Et justement, ces documents-là que vous nous offrez, que nous partageons avec les auditeurs d'RTL, il y a des étudiants qui viennent les écouter. Comment on peut participer et écouter vos archives ?
Oh, écoutez, déjà, c'est vrai que chaque fois qu'on me contacte, ça me fait très plaisir. Mmh. En fait, si vous voulez, notre institut a deux vocations. La première, c'est de numériser des archives pour des radios. Et en plus, en ce qui me concerne, je continue à faire vivre ma passion qui est d'enregistrer les grands témoins. Mmh. Et pas forcément des gens célèbres, mais des personnes qui ne parlent que très peu ou rarement, et qui ont des choses souvent passionnantes à dire.
On continue de fouiller dans votre malle au trésor, aux archives sonores. Vous nous avez apporté une archive de l'aviateur Louis Blériot qui raconte son exploit. C'est la fameuse traversée de la Manche. Nous sommes le 25 juillet 1909.
Petit à petit, j'entrevois les falaises vertes de Douvres. Et loin, à l'ouest, l'endroit où j'avais l'intention d'atterrir. Je vois une ouverture dans la falaise. Décrivant un demi-cercle, je rentre dans l'ouverture et me trouve au-dessus de la terre ferme. J'essaie d'atterrir, mais le vent me saisit et me fait tourner deux ou trois fois autour de moi-même. Tout de suite, j'arrête mon moteur et immédiatement, mon avion s'enfonce droit sur la terre. Des soldats en kaki accourent, ainsi qu'un policier. Deux de mes compatriotes sont là, ils m'embrassent sur les deux joues. Je suis plein de joie, j'ai réussi.
C'est Louis Blériot, le premier aviateur qui traverse la Manche. Nous sommes le 25 juillet 1909. Et ce son, Franklin Picard, il a été enregistré quand ?
Beaucoup plus tard. Il a été enregistré probablement là aussi dans les années 30. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire dans cet enregistrement, lorsqu'on a visité le musée de l'air ou le conservatoire des arts et métiers, maintenant le musée national des arts et techniques, c'est là que se trouve le blaireau authentique. Et on se demande comment ces fous volants pouvaient vraiment avoir le courage de monter sur ces appareils qui n'inspirent pas une confiance absolue, vous voyez, quand on n'est pas spécialisé. Donc c'est un exploit, à mon avis, très important et qui, à mes yeux, a un peu changé le monde, la traversée de la Manche.
Moi, ce qui me frappe en l'écoutant, c'est le fait qu'il dit, alors il parle de ça au milieu des années 30, mais ça semble tout simple, facile, alors que c'est un exploit historique.
C'est un grand exploit historique. Et je trouve que les plus grands hommes sont ceux qui sont les plus sobres. Ça se remarque bien dans les enregistrements.
Ça, c'est beau. Une autre voix mythique. Alors attention, on va se la garder pour dans un instant.
là, ça va être la voix de la publicité. Restez avec nous sur RTL.
Importante aussi.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
RTL, nous sommes évidemment friands des archives sonores. C'est la mémoire vivante de notre histoire. Nous sommes avec Franklin Picard qui collectionne ses sons depuis des années. Il en a plus de 200 000 dans ses archives. Allez, je vous fais écouter une voix. C'est la voix de Gustave Eiffel. Vous allez voir, c'est assez inaudible, mais c'est mythique. On se la fait quelques instants. Alors si cette
enregistrement... On vous croit sur parole, hein.
C'est Gustave Eiffel, oui. Et il faut le dire
que... C'est très intéressant, il s'adresse au phonographe. Pour la première fois, il lui dit surtout, tu garderas bien les paroles que je vais prononcer.
Parce que c'est Thomas Edison qui lui a offert
le premier appareil en France pour enregistrer.
Voilà, et c'est au moment où on inaugure aussi sa tour Eiffel. Donc c'est deux grands qui se retrouvent et qui se rencontrent.
Et ce qui est intéressant avec vos archives sonores, Franklin Picard, c'est que on avance aussi avec la technologie. Et voilà, là il y avait le phonographe, maintenant il va y avoir le cinéma. Georges Méliès.
Tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits. Vous comprenez bien, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire. C'était le père de messieurs Louis-Auguste Lumière qui était là ce soir-là et qui m'a répondu immédiatement, ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc., et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques.
Alors on a compris, qu'est-ce qu'il raconte Georges Méliès, Franklin Picard ?
Mais il raconte tout simplement le premier film qu'il a pu voir, donc, comme vous savez, sur le Grand Boulevard, puisqu'il était directeur du théâtre Béroudin. Vous savez qu'il a fait 600 films, Méliès, c'est vraiment le père du
cinéma. Le film dont il parle, d'ailleurs, c'est L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'est le premier film, il fait 50 secondes, il est mythique quand même.
Et Chaplin disait simplement une phrase que je trouve très belle, Méliès, c'était l'alchimiste de la lumière.
C'est très beau. Beau comme vos archives. Allez, une autre archive.
Une voix féminine, tiens.
Une voix féminine, c'est Sarah Bernard.
Ils ont fait reculer d'enfants d'humanité jusqu'au seuil oublié des heures les plus noires. Et lorsque devant eux, dans un suprême effort, un peuple aux déshonneurs a préféré la mort, ils l'ont frémir, crucifié dans sa gloire. Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font.
Sarah Bernard, qu'est-ce qu'elle déclame, un poème, c'est ça ?
Oui, c'est un poème de Louis Payen. En fait, il faut bien comprendre, il faut toujours se remettre à l'époque. Sarah Bernard est aux États-Unis et elle veut participer à la victoire des Alliés. Et elle dit ce poème qui est à la fois terrible, mais encore une fois, c'était la seule façon qu'elle avait, elle, de soutenir le moral des poilus, comme elle disait.
Elle date de quand, cette archive sonore ?
Vraisemblablement, non, c'est exactement de 1918.
Donc juste
le
après
10 janvier 1918.
D'accord, donc la guerre n'est pas encore terminée, non. Elle veut soutenir le moral des troupes. Vous disiez tout à l'heure, et on peut peut-être le rappeler pour les auditeurs qui nous rejoignent, que c'est le théâtre qui vous a donné envie de vous lancer dans cette passion, dans cette collection de sons. Pourquoi ? Parce que les voix des acteurs vous fascinaient ?
Oui, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre. Et puis, il y avait une deuxième raison, c'est qu'à cette époque-là, on ne trouvait recueils des voix de théâtre, surtout dans les archives anciennes. Les discours politiques, je les ai trouvés beaucoup plus tard, et les autres aussi.
J'ai une question, je me demande, parfois dans ces enregistrements, on dirait que ces personnages parlent différemment de nous, comme s'ils avaient une autre diction. C'est le temps qui fait cet effet-là, ou en effet, on parlait différemment ?
Il y a deux choses. Hein. La première, c'est très rapidement que je dirais que chaque personne parle en fonction de son époque. Ça, c'est très, très certain. Regardez à l'époque de Léon Blum, regardez à notre époque et à cette époque-là. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de micro, vous voyez, à l'époque. Donc, on est obligé d'articuler. Et comme on est obligé d'articuler, il fallait absolument que... Ben ça, vous connaissez bien tout ça, hein, que ça soit audible.
Alors, on continue d'avancer dans le temps avec un enregistrement qui date des années 40. On va parler de mode. Je ne vous dis pas qui c'est.
D'acheter que ce qui est beau et précieux. Rappelez-vous que la France est le pays du luxe, c'est du bon goût. Repoussez tous les accessoires douteux, les vulgarités, les bijoux de verroterie et les tissus de pacotille. Vous avez effilé vos sourcils pour les reconstituer d'une façon arbitraire à côté de leur vraie place. Vous avez porté des socques en bois. Vous avez teint vos cheveux dans des nuances invraisemblables. Vous avez coloré vos ongles en rose, en rouge, en or. Vous avez abusé du rouge à lèvres. Vous infligeant même au restaurant le spectacle de cette toilette intime. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes tout de même allé un peu loin ?
Il n'est pas très sympa. Vous avez suivi ses conseils, Sidonie Bonnec.
En colère, oui, je n'ai pas teint mes cheveux en noir.
D'accord, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est un grand monsieur de la mode qu'on vient d'entendre. C'est qui ?
Paul Poiret, c'est le plus grand couturier du début du siècle. Mais je vous avoue, en réécoutant ça et en regardant Sidonie Bonnec, je me suis dit, j'espère qu'il y a une protection pour les gens comme moi, vous voyez, ou sortir de l'ETL, on peut se faire lyncher après. Un document pareil.
En fait, alors, il donne ses conseils, c'est ça, il donne des conseils.
C'était des conseils, oui, tout simplement.
C'était quoi? C'était une interview donnée à un journaliste?
Ce qui est très sympathique, il est probable que ce soit un enregistrement de Radio Luxembourg. Des années juste avant, parce que moi j'aime bien rendre hommage à Radio Luxembourg, qui est notre ancêtre.
Bien sûr.
Il y a la plus ancienne radio, probablement les années 37-38, un petit peu avant sa mort.
Paul Poiret, qui à la fin de sa vie, se consacrera d'ailleurs à la peinture. Donc il avait déjà évidemment la finesse du trait pour créer des modèles. Et ensuite il est devenu peintre.
Et puis on a encore une archive, il y en a énormément. Je rappelle que dans votre collection Franklin Picard, il y en a 200. Une, c'est ça, 201 archives.
200 000.
200, je dis quoi ?
201.
Non, c'est nul, 201.
Non, c'est moins bien.
200, mais comment on dit ?
201 000.
201 000, voilà, c'est la plus grande collection au monde d'archives sonores.
Une dernière ?
Allez, une dernière, c'est un cadeau d'ailleurs que vous nous faites, Franklin Picard, parce qu'elle n'a jamais été diffusée. C'est le témoignage d'une esclave noire américaine, Harriet Smith.
I'm trying to get you the song that... You know this about being saved all day. I've been saved all day. No evil have I done. Been saved all day. No evil have I done.
Qu'est-ce qu'elle dit, Harriet Smith dans cette archive sonore?
Écoute,
qu'est-ce qu'elle confie sur sa vie?
Ah, ben, elle raconte toute sa vie dans les plantations. C'est un enregistrement qui date de 1938, elle avait 90 ans. Donc évidemment, elle avait des souvenirs très précis. Et ce que je voulais juste vous raconter, c'est qu'un jour, à l'Académie française, devant les 40 académiciens, j'ai fait écouter la voix de cette esclave, parce que je trouvais que ça avait un côté inouï. Je veux dire, cette pauvre femme qui avait passé toute sa vie dans des conditions si malheureuses, serait un jour dans un des endroits les plus prestigieux de la France.
Elle vous aime beaucoup, cette archive?
Je l'aime beaucoup parce que j'ai mis 25 ans à la trouver, qu'on peut absolument plus la trouver. C'est vraiment un document très rare. C'est un des seuls enregistrements connus d'une esclave parlant.
Mais comment vous faites? C'est-à-dire, vous avez des informations, vous savez qu'une archive existe peut-être quelque part, et là vous vous mettez en chasse comme un enquêteur d'une certaine façon?
Oui, c'est vrai, c'est directement ça. J'ai su depuis très longtemps que cette archive existait, mais pour la trouver, il m'a fallu une dizaine de voyages aux États-Unis, mais je ne faisais pas ça uniquement pour ça, bien sûr. Mais un jour, j'ai fini par la trouver.
Et là, est-ce que vous avez par exemple un son, une voix que vous espérez trouver? On vous a dit, tiens, il y a ce son qui existe quelque part et que vous cherchez absolument.
Il y en a deux. Dans le domaine du théâtre, on sait que la grande actrice Réjeanne, qui était la contemporaine de Sarah Bernhardt, a enregistré sur cylindre, mais le cylindre n'a jamais été retrouvé. Et dans le domaine de l'histoire, avec grande histoire, le tsar Nicolas II aurait enregistré. Et voilà, j'espère un jour.
Voilà, peut-être que certains de nos auditeurs ont des pistes à vous fournir. Merci beaucoup.
C'est un vrai bonheur de vous
Merci, Franklin Picard.
Je rappelle qu'on peut aller sonner à la porte de l'Institut des Archives Sonores de Paris si on veut écouter vos sons magnifiques. Merci à vous. Et dans un instant, on part découvrir l'Afrique qui bouge.
Vous écoutez RTL.